Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Que diriez-vous de vous accorder 30 minutes pour vous interroger sur le phénomène intelligence artificielle ? Bien sûr, sous ses aspects sociaux, culturels, éthiques, on va faire un petit peu technique quand même, et pourquoi pas politique. Aujourd'hui, on va se demander s'il est possible de détecter des contenus générés par les IA. En effet, ces contenus-là, ces contenus générés par les IA prennent de plus en plus de place sur les sites web, également sur les réseaux sociaux. Et ça pose quelques soucis. On va voir ensemble quels soucis ça pose. Et puis comment s'en prémunir, comment on peut vérifier si on est bien en train de lire ou de regarder un contenu authentique. Et on va s'en parler avec un spécialiste français du domaine.
Cause commune 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des possibles. Cause commune que vous pouvez retrouver sur cause-commune au singulier.fm et puis sur ses apps mobiles. Également en bande FM 93.1 à Paris, LDAB+, et votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas, vous nous appréciez, mettez-nous quelques étoiles, quelques pouces. C'est important pour nous parce que ça récompense tous nos efforts. Et puis en plus, ça nous fait connaître parce que ça manipule les algorithmes. Et
c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez, parlez-moi d'IA.
Depuis novembre 2022, avec l'accès grand public à ChatGPT, nous sommes entrés dans une nouvelle ère concernant la production de contenu en ligne. Il est devenu beaucoup plus simple aujourd'hui de créer des contenus, beaucoup plus économiques également, d'écrire et de faire écrire un article et de le publier. Par exemple, une étude récente d'une société spécialisée qui s'appelle Originality.ai montre que le nombre de posts LinkedIn a augmenté de 189% juste après la mise en ligne de ChatGPT entre janvier et février 2023. Donc il y a eu une espèce de boom général. Et puis, autre fait marquant, ces posts, du coup, ils étaient beaucoup, beaucoup plus longs, mais de manière significative, parce qu'ils ont doublé de longueur ces posts, toujours entre janvier et février 2023. Génial, on va enfin tous pouvoir poster ces contenus, les contenus qu'on n'a pas le temps de faire, qu'on n'a pas l'inspiration de faire, sur plein de sujets sur lesquels nous voulons nous exprimer. Ouais, ça facilite la vie, c'est sûr, mais d'autres s'en emparent aussi pour faire d'autres choses avec, et pour aller beaucoup plus loin, et ça a quand même de grandes conséquences. Par exemple, une étude Pagram de novembre 2024 montre que 7% des 26 000 sites d'information qu'ils ont analysés seraient déjà générés et seraient déjà des contenus générés. Donc, que vaut ce contenu ? Quelle confiance on peut lui accorder finalement ? Parce que c'est quelque chose qui est généré à partir de bases déjà existantes. C'est un contenu qui existe déjà, qui est régénéré derrière. Où est la diversité ? Où est l'originalité noyée dans la masse ? Cette génération massive de contenu pose de nombreuses questions sociales, économiques. Ça bouleverse un peu les modèles quand même. Et même géopolitique. On va voir que certains pays se spécialisent un petit peu dans cette industrie de la génération. Bon, vaste sujet. Heureusement pour nous, notre invité du jour le connaît très bien. Après un doctorat, une thèse qu'il a beaucoup rapproché de ce sujet et plusieurs expériences structurantes dont il va nous parler, il a fondé Uncove AI. Et Uncove AI, c'est une start-up qui se donne pour mission de détecter justement le contenu généré pour changer la donne dans ce registre. Bonjour Florian Barbaro.
Bonjour Jean-Philippe et merci de me recevoir.
Bienvenue à distance, hein, depuis quoi ? Depuis Nice ?
Depuis Nice, oui.
Bienvenue depuis Nice. Bon, envoyez-nous un peu de soleil. Alors, parlez-moi d'IA, Florian. Vous complétez votre formation d'ingénieur par un doctorat en machine learning et en analyse sémantique. Ça, c'était en 2022. Quoi le sujet de votre thèse ? Et en quoi elle vous a un peu mis sur le chemin de vos missions avec Uncove AI aujourd'hui ?
Donc au début, le sujet de ma thèse, c'était comment quantifier l'impact des communiqués de presse sur les marchés financiers. Et on était vraiment parti sur des communiqués très spéciaux, ce qui s'appelle les 8K. Donc à chaque événement important d'une entreprise, elle doit publier des informations. Mais on s'est rendu compte que ce type de communiqué n'était pas essentiel pour la prédiction. Et donc on est plus parti sur une analyse des représentations textuelles et du clustering de texte. Et donc le but, c'était vraiment de trouver le meilleur type de représentation pour extraire le plus d'informations d'un texte.
Et du coup, ça vous a permis de vous rapprocher justement de ce travail sur la sémantique, de ce travail sur la compréhension des textes. Et puis ensuite, vous êtes allé travailler au, si j'ai bien compris la chronologie, mais peut-être que je me trompe, au ministère de la Santé, c'est ça? Ou c'était entre les deux?
Donc j'étais, je travaillais pour une entreprise et on était contracteur du ministère de la Santé américaine.
Ouais.
Et donc le but, c'était vraiment l'analyse de la désinformation liée au Covid et sa propagation sur les réseaux.
Et ça, c'était pareil en 2022 à peu près ?
2022-2023.
Et du coup, déjà, vous aviez repéré finalement des contenus qui étaient générés et qui participaient de cette désinformation ou pas du tout?
Alors, pas sur, beaucoup moins sur la partie Covid. Je dirais que c'était vraiment plus de la désinformation traditionnelle où les gens allaient créer des écosystèmes de bots en répliquant le même message. Par contre, où on a vu une apparition de la désinformation utilisant des modèles génératifs, c'est plus sur la désinformation russe que j'étudiais en parallèle de mon travail. Et là, on a vu que sur certains points, pour par exemple induire en erreur les populations ukrainiennes, ils allaient utiliser des traducteurs. Après, ils ont vu qu'il y avait des erreurs, donc ils ont commencé à utiliser des modèles génératifs pour justement être capable de propager encore plus de malinformations.
Et ça, c'est à l'origine finalement de votre révélation du souci et de la problématique.
C'est ça, c'est parce qu'en fait, comme je m'étais posé la question, donc j'avais présenté un papier à une conférence qui essayait de voir comment combattre la désinformation russe en l'occurrence. Et après, je me suis posé, j'ai continué de regarder les messages qui étaient publiés sur les réseaux sociaux par ce type d'acteurs, et je me suis posé la question. En fait, c'était tellement simple de générer de la désinformation en utilisant des modèles génératifs que vous pouvez tous trouver en rajoutant quelques mots pour casser les liens de sécurité. Je me suis dit, ces acteurs-là malveillants vont les utiliser. Et donc, on doit être capable de faire quelque chose pour justement essayer de combattre cette mauvaise utilisation.
Donc, vous parliez là, à l'instant donc des Russes, mais quel type d'organisation aujourd'hui, alors c'est pas forcément votre domaine d'expertise absolue, mais quel type d'organisation a intérêt à ce type de campagne de désinformation aujourd'hui? Quand on analyse un peu ce domaine, de quoi on parle, de qui on parle dans ce
alors,
domaine aujourd'hui?
Alors, il y a des grands États. Donc il y a les trois pays alliés qui s'appellent la Chine, l'Iran et la Russie. Et d'ailleurs l'Iran a été débusqué par OpenAI pour avoir tenté de faire une campagne de désinformation en utilisant GPT aux États-Unis avant la campagne américaine.
Ouais.
Il y a des lobbies.
Oui.
Notamment le lobby du free speech, qui est pour moi un non-sens total, puisque après c'est vraiment un point de vue personnel, mais le free speech s'arrête aux démocraties et ne concerne pas les dictats.
Ça, c'est un lobby américain, c'est ça? C'est quoi ça?
Oui, c'est ça. Oui. En fait, c'est essayer de faire comprendre, par exemple, quand on est aux États-Unis. Donc, en fait, le mouvement du free speech est apparu avant l'élection première élection de Trump, comme quoi il y avait un groupe d'élite qui contrôlait le monde et que les réseaux sociaux étaient censurés en quelque sorte. Et donc, il y a eu des premiers réseaux sociaux qui s'appellent Gab, Gator, True Social, qui sont apparus et qui mettaient justement en avant ce free speech. Et quand on regardait ce type de contenu, c'est vraiment que de la désinformation ou en grande partie de la désinformation, des contenus racistes, homophobes et donc qui ne prônent pas le...
Et beaucoup de contenu généré. Ouais. Et beaucoup de contenu généré du coup sur ces plateformes, c'est ça?
C'est ça, de plus en plus. Et où on a vu vraiment l'explosion de la désinformation de contenu généré, c'est sur Twitter, puisque c'est intégré directement à l'outil de X, et ça sert dans des proportions importante pour justement avoir mené à l'élection de en tout cas avoir ouais. joué un rôle important dans l'élection de Trump.
Et il y a aussi une étude de NewsGuard sur Medium qui montre, alors là on est plus sur des choses qui relèveraient de l'escroquerie en fait, tout simplement, mais où on voit que les contenus explosent, notamment ce qui concerne les sujets de crypto-monnaie et de marketing, pour un petit peu finalement créer des NAS, créer des tunnels vers des escroqueries en fait, donc de saturer en fait le sujet.
Après, c'est exactement le même principe de base et qui avait été mis en avant par Viginome de Matrioshka, qui était plus sur la sphère informationnelle. Et on va juste répliquer la même méthodologie pour saturer l'espace informationnel d'une personne et pour après l'amener dans un tunnel d'achat, que ce soit crypto ou d'un produit ou une arnaque.
Donc ça pose pas mal de soucis aux plateformes de contenu existantes.
Oui.
Comment elles le gèrent aujourd'hui, ce type de contenu généré, les plateformes participatives, collaboratives? Est-ce qu'elles ont des dispositifs est-ce qu'elles tentent des choses déjà, ou est-ce que vous avez connaissance de procédé?
Non, puisque c'est...
Il n'y a pas, c'est liberté.
Il y a Instagram qui met en place du déclaratif, mais le déclaratif, très peu de gens vont le mettre en place.
Oui, comme sur YouTube.
Il y a LinkedIn qui a mis en place le C2PA, la certification C2PA.
On en reparlera juste après, ouais, de C2PA.
Ok.
Ouais.
Et en fait, le problème de, par exemple, des réseaux sociaux, plus une publication va être vue, plus ils vont engranger des bénéfices.
Ah oui.
Et malheureusement, sur Instagram, par exemple, mais c'est valable aussi sur d'autres plateformes comme TikTok, il y a beaucoup de contenus qui sont générés. Et donc, ils ont un problème dans le business plan, à savoir, est-ce qu'il faut
modérer, mais
détecter et déclarer que c'est généré ou pas. Et donc après, la question se pose plus au niveau régulation, où là, il va y avoir une imposition si elle est mise en place.
Il y a déjà des réflexions sur, vous parlez de régulation, il y a déjà des réflexions sur les régulations aux États-Unis ou en Europe sur ces questions-là, ou ça, c'est juste balbutiant parce qu'on prend à peine conscience du problème?
Il y a par exemple l'IA Act qui justement demande à labelliser des contenus générés par intelligence artificielle. Il y a un article de l'ONU qui justement met au défi d'être capable de détecter la labellisation par IA. Aux États-Unis, c'est je crois que la loi qui devait passer en Californie a été arrêtée, mais ils vont être bien obligés de réguler,
ouais,
au moins un peu, parce que hier il y a un arrêté d'un sénateur républicain qui dit que la législation européenne va être un frein à l'hégémonie américaine contre la Chine sur le développement des modèles d'intelligence artificielle.
À cause
donc
du manque de confiance que qu'on pourrait avoir, c'est ça? À cause de quoi?
À cause des cadres réglementaires.
Ouais.
Pourquoi les entreprises américaines ne pourraient pas utiliser aussi facilement les données européennes? Donc ça réduirait leur...
Ah oui, dans ce sens-là, oui. D'accord, ça les restreint dans leur usage des données.
C'est ça, oui. Et en fait, quand on voit tous ces, par exemple, toutes ces sociétés qui ont mis la pression, par exemple, quand l'iPhone est sorti, tout le monde, beaucoup de gens sur LinkedIn ont dit c'est une honte à cause de l'Union européenne, on n'a pas... Apple Intelligence, ou je
sais pas. Oui, le nouveau service, ouais.
Alors que, en fait, le service était disponible seulement en anglais et il n'était pas encore disponible en français. Donc, il y a eu énormément de lobby contre l'Union européenne et qui n'avait
sur
pas
un fait faux, ouais, sur un fait qui était une fait. Et alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre? On dit aussi que tout ce contenu généré, finalement, il menace les projets de contenu collaboratif type Wikipédia ou Reddit. Mais pour qu'on comprenne bien, pourquoi les contenus générés menacent finalement sous quelle forme ils menacent ces projets de contenu collaboratif?
Alors, les contenus générés, ils menacent les contenus des plateformes de contenu collaboratif, mais aussi les modèles génératifs, il faut le,
ouais,
le dire. Et en fait, la problématique, par exemple, on a fait un travail avec un journal local,
ouais,
et régional, et en fait, on s'est aperçu qu'ils avaient un compétiteur qui utilisait un modèle génératif pour réécrire leur article. Et en fait, on s'est aperçu que dans ces articles réécrits par l'IA, il y avait des incohérences qui, à première vue, ne posaient pas problème. Par exemple, c'était sur un article d'un accident. L'article original, l'accident avait eu lieu à 15h30. Sur l'article régénéré, il avait lieu à 15h45.
Ouais.
Mais si demain, par exemple, on prend Napoléon, on dit que son règne, dans l'article initial,
on crée un contenu complètement
faux. Telle bataille qui a eu lieu en telle année, et l'article régénéré dit la bataille, n'importe quelle bataille a eu lieu 10 ans après. On va amener justement
erreurs,
de l'incohérence, et donc après les gens vont être happés par cette incohérence, et cette incohérence va devenir la nouvelle réalité, alors que c'est totalement faux.
Oui, c'est ça, ça crée une nouvelle réalité potentielle, un nouveau savoir potentiel, parce que c'est peu contrôlé. Vous voyez d'autres grandes conséquences comme ça des contenus générés pour notre accès, notre consommation à l'information? Quand vous présentez un peu les problématiques qu'arrive à couvrir quels sont les grands problèmes finalement que ça arrive à adresser de détecter des contenus générés?
Et il y a on a travaillé justement sur le risque d'appauvrissement des modèles de LLM,
oui,
qui vont s'y réapprendre sur des données synthétiques non contrôlées. Ils vont avoir une perte de capacité, et donc ça va être dramatique pour par exemple les startups style Mistral,
ouais,
Lighton, par exemple Hugging Face qui entraîne Small, ou justement OpenAI, ou dans l'article de Sam Altman disait que ils arrivaient à un plafond.
Plus assez de données en fait authentiques pour entraîner les LLM sur des contenus authentiques, quoi.
Non, sur un plafond en fait de capacité.
Ah oui.
Et y avait des ingénieurs qui se demandaient, si on rajoute des données synthétiques, ça va être problématique, puisqu'en fait on va avoir un lexique beaucoup plus restreint d'une langue ou d'un code, et donc on va enlever la diversité. Donc ça, c'est vraiment une grosse problématique qui va. Si on enlève de la diversité au modèle, on enlèvera forcément de la diversité à la création. Et après, il y a un gros problème au niveau des fraudes. Parce que, par exemple, admettons, c'est pas pour dire, si vous prenez en photo votre mur, avec l'application de Reimagine de Google Pixel 9, vous ajoutez une tache d'humidité, hop, vous envoyez ça à votre assurance, et comme c'est moins du seuil d'appel à un expert, il y a de grandes chances qu'elle puisse vous rembourser de cette somme-là.
Bah bien sûr, on n'appelle pas les auditeurs à faire ce type d'opération, bien sûr. Mais oui, c'est vrai que ça immédiatement, ça permet en fait ça ouvre des possibilités de ce type. D'accord, très bien. Et du coup, abordons Uncove AI. Comment ça fonctionne finalement? Comment vous détectez des contenus générés? C'est quoi le procédé que vous utilisez en particulier?
En fait, je me suis aperçu que tout le monde utilisait les mêmes types de modèles basés sur du Roberta, du Llama. Et en fait, on va pouvoir détecter, on va entraîner un algorithme, on va pouvoir détecter. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le mettre à grande échelle parce que ça va coûter trop cher. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai enlevé une partie du modèle qui doit être entraîné. Je l'ai remplacé par des hypothèses mathématiques, des modèles mathématiques qui vont me permettre en fait d'avoir une certaine représentation du texte ou de l'image qui va rentrer en input, et c'est ça qui va me donner la capacité de détecter. Et en fait, de manière très simple, quand un modèle génératif va générer son prochain token, son prochain mot, il va le faire en maximisant une probabilité, et donc en fait il va apparaître une certaine linéarité dans la génération du texte, et c'est cette information là qu'on va aller chercher, qui va nous permettre de savoir si il y a plus de probabilité qu'un texte ait été généré ou ait été écrit par un humain.
Et du coup, votre capacité à détecter, elle se situe à quel pourcentage? Vous garantissez une détection à en particulier ou pas du tout? Comment ça se passe? Vous arrivez à vous dire, bah, moi, notre solution, elle permet de détecter 95%, 80%, donc, je sais pas,
60%. En test, oui, en test, on est au même niveau que les copains, que nos compétiteurs, je dirais. Donc, en fait, et sur des benchmarks publics. Donc, par exemple, il y avait un benchmark d'originality.ai qui montrait que c'était le modèle le plus capable à détecter. Ils obtenaient 79% et sur ce cas-là, on obtenait 86% de taux de détection comme GPT-0. Et sur un nouveau benchmark de mi-2024, le meilleur, c'était Copilic avec 64% et nous, on obtenait plus de 75% de taux de détection. Donc, on voit qu'on a un modèle qui est aussi, voire plus robuste que nos compétiteurs.
Ouais. Tout en étant éco-friendly ou éco-responsable, puisque vous n'utilisez pas un gros LLM pour finalement détecter les contenus générés par d'autres gros LLM. Vous leur avez plugué en fait une sorte de prothèse mathématique qui...
Ouais, en gros. Et donc en fait, oui, ouais. C'est ça. Et le but, c'est de faire tourner seulement sur du CPU, donc être capable d'avoir besoin de beaucoup moins de ressources et donc de pouvoir analyser un plus large spectre de données.
Et si on veut l'essayer là aujourd'hui, le grand public, vous avez, j'ai vu que vous aviez publié un plugin Chrome, c'est ça?
C'est ça, les gens peuvent l'essayer sur notre site uncovai.com.
Ouais.
Ils peuvent aussi en tapant uncovai sur le Chrome.
Extension
Marketplace ou le Firefox Marketplace uncovai, il y aura l'extension pour le texte.
Et donc après, ça marche comment l'extension? C'est-à-dire que vous êtes sur une... Comment ça fonctionne? Je suis sur une page et je veux vérifier que le contenu que j'ai devant les yeux est authentique. Comment je procède?
Alors pour l'instant, il faut copier le texte de la page, puis le coller dans l'extension et appuyer sur Submit. Et comme ça donnera la réponse. Et après, le but, ça serait de faire un peu à l'image de Grammarly, qui va analyser le texte de chaque page pour dire de manière automatique sans avoir besoin de...
Et ça nous dit la probabilité de contenu généré ou pas, quoi. Ça nous dit si...
C'est ça, okay. Exactement, oui.
Vous nous parliez justement tout à l'heure de C2PA, pardon. Ça, c'est un peu la suite. C'est comment on pourrait imaginer finalement de certifier ou de labelliser des contenus. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est justement cette certification C2PA, d'où ça vient et c'est quoi l'idée derrière?
Donc le C2PA, c'est une association de grandes entreprises, c'est une initiative de grandes entreprises américaines notamment, avec Microsoft, Adobe et d'autres qui poussent cette certification en fait pour aider à authentifier l'origine d'un contenu.
Et comment vous
notamment,
vous insérez?
Au début, c'était pour l'image.
Et comment vous insérez-vous dans cet écosystème de certification?
Et alors, en fait, pour pouvoir certifier une information, une image dans ce cas-là, nous, en fait, le but, ça serait de pousser au texte, à la vidéo et autres. En fait, pour pouvoir certifier, on va devoir demander une clé de signature à cette autorité. Et une fois qu'on a cette clé signature, on peut signer n'importe quel contenu. Et donc, en fait, ça part du principe que toute personne qui a cette signature est de confiance. Et donc, nous, ce qu'on part du principe, c'est que aucune personne n'est de confiance.
D'accord.
Et donc, on va analyser toutes les informations qui vont rentrer dans le flux d'informations, par exemple, d'une rédaction. Pour lui dire, voilà, faites attention, ça c'est une image modifiée par l'intelligence artificielle, ou ça c'est une image humaine. Après, on va aller checker, est-ce que cette image est déjà parue sur Internet? Est-ce qu'elle représente réellement, je sais pas moi, un incident qui a eu lieu hier ou ce matin? Et après, on va selon les résultats, on va offrir la possibilité aux journalistes de pouvoir certifier cette information. Parce que, en fait, il y a un gros problème de confiance, et notamment quand, je crois que c'était le palais de Kensington a envoyé l'image de Kate Middleton.
Oui, oui, voilà.
Le palais de Kensington, c'est une source de confiance.
important.
Mais par contre, là, ils avaient envoyé une photo un peu modifiée.
Un peu truquée.
et donc, en fait, ça crée de la distance entre le lecteur d'un journal qui va acheter ce journal en se disant « Tiens, j'ai payé, j'ai confiance. » Et après, il va se dire « Ben mince, en fait, ils font pas leur travail de journaliste. Et, ouais. Et donc, je vais arrêter d'acheter ça et je vais juste regarder mon information sur X, par exemple. » Et donc, le but, c'est vraiment...
Il y a une bien meilleure source d'information, effectivement. Mais du coup vous réinsérez dans le process de certification C2PA pour encore plus, finalement, le certifier et l'enrichir et permettre, effectivement, d'accroître la confiance dans les médias. Aujourd'hui, pourquoi pendant un petit moment, OpenAI a déclaré, qui voulait l'entendre, que finalement, il n'y avait aucun moyen de détecter des contenus générés?
C'est parce qu'en fait, ils ont arrêté leur détecteur pour financer une start-up, et notamment GPT-0.
C'est créé une fausse info en disant, de toute façon, on n'y arrive pas nous-mêmes, donc vous n'y arriverez pas.
Et des personnes du board...
Ouais.
Ont investi dans justement cette détection de texte générée par après.
Bon, et puis vous me parliez en préparation de cette émission d'un appel à projet du ministère de la Culture auquel vous participez pour leur proposer une solution que vous allez appeler Provenance avec un partenaire. Pouvez nous en dire plus sur cette expérimentation?
Et donc là, on est un consortium de trois entreprises. On fait, si je peux les citer, Atelier, Trust My Content et donc NKVI. Et donc le but c'est de mettre à disposition une solution de bout en bout pour les journalistes, les rédactions, pour les aider justement à authentifier et certifier l'information pour que leur travail ne soit pas plus remis en cause et regagner la confiance des lecteurs. Et donc, comment ça va se passer? À chaque fois qu'une information va arriver dans une rédaction, on regarderait s'il y a de l'intelligence artificielle, si elle a été publiée. Après, le journaliste aurait la possibilité de certifier justement avec cette certification C2PA. Et au moment où il publierait cette information, il y aurait toujours on ajouterait la transparence pour que le lecteur puisse comprendre quelles a été les étapes de travail, qui a travaillé dessus, pour qu'en fait il puisse s'imaginer tout le travail qu'il y a derrière la production d'une information et qui va en lien avec un rapport de la BBC qui montre qui a eu lieu il y a 3-4 mois, qui montre justement que 94% ou 93% des lecteurs ont beaucoup plus confiance quand on ajoute de la labellisation, ajoute de la transparence à la provenance de l'information.
Bon, tout ça va sûrement plaider en votre faveur auprès du ministère de la Culture pour que cette expérimentation voit le jour et qu'on ait effectivement des contenus de mieux en mieux authentifiés et compris. Donc, on a beaucoup parlé texte, mais vous faites aussi ce travail-là et vous le développez aussi de plus en plus sur l'image.
C'est ça. Et donc là, on a un premier modèle pour la détection d'images générées par IA. Et là, actuellement, on travaille sur un modèle d'audio pour pouvoir justement être capable de détecter des vidéos parce qu'on nous le demande de plus en plus. Le but là, c'est de mettre en place, par exemple, un premier modèle d'audio et un premier modèle de vidéo, récupérer les retours terrain pour après pouvoir les améliorer et accroître la confiance qu'ont les gens dans nos outils.
Bon, vous avez encore de belles perspectives devant vous, je pense,
oui.
Florian, sur ces sujets-là.
Oui,
écoutez, c'est l'heure de conclure. Merci encore pour tous vos partages, pour nous avoir fait rentrer dans ce sujet-là des contenus générés, de leurs conséquences et de la manière dont on peut aujourd'hui imaginer de les détecter, notamment avec une solution française. Et on est bien content d'avoir une solution française aussi sur ce sujet. Donc, merci beaucoup. Merci pour ce partage.
Merci beaucoup.
Et on vous retrouve sur uncov.com, c'est ça? uncovai.com.
Exact.
Je mets le lien en description, c'est plus simple. Et comme ça, on peut aller voir le plugin et tout le reste. Merci à vous, Florian.
Merci beaucoup.
Merci aussi, chers auditeurs. N'oubliez pas de liker cet épisode parce que ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler les algorithmes. On reste sur 93.1 FM sur Cause Commune. Cause Commune, c'est pas que Parlez-moi d'IA. N'hésitez pas à aller voir tous nos programmes avec tous les animateurs bénévoles qui sont pleins d'entrain et qui vous proposent plein de sujets. Allez, à bientôt.